Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans votre émission mensuelle avec Radio Immo et nos confrères de la lettre du Mètre Carré pour ce Mag au carré. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait carré d'ailleurs, quand on y réfléchit, parce que parfois il faut prendre quelques chemins et arrondir un peu les angles, faire un pas de côté, surtout dans un monde de plus en plus incertain. On va, comme c'est le but pour toutes nos émissions, faire de l'immobilier aussi dans les territoires. Et on va parler de la bonne vieille ville de Lyon. Et bien sûr, forcément, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, je suis un Lyonnais d'origine, puisque je suis né à Lyon. J'ai grandi, c'est une ville magnifique, une métropole superbe, qui a été littéralement transfigurée par un maire emblématique, si on peut le dire, pendant plus d'une vingtaine d'années. Il s'agit de Gérard Collomb. Et s'il nous écoute par hasard, eh bien, on le salue bien bas, bien évidemment. Il se repose tranquillement, mais ainsi que les amis de la métropole de l'époque. Maintenant, on a une nouvelle équipe, ça change un peu la donne, et on va parler de tout cela. Sur cette émission, comme d'habitude, nous avons la rédactrice en chef de la lettre du Mètre Carré, j'allais dire du Mag au Carré, aussi. Audrey Jourdain, comment ça va Audrey ?
Bonjour Sylvain, très bien et vous ?
Comment ça va aujourd'hui Audrey ?
Parfaitement, je suis ravie de parler du marché lyonnais de l'immobilier d'entreprise.
Voilà, et l'immobilier d'entreprise à Lyon, c'est un vrai sujet avec une très bonne alternative puisqu'effectivement il n'a échappé à personne que la position géostratégique, c'est bien dit comme ça, fait de Lyon une place attractive. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une des trois premières places attractives en Europe. Bien évidemment, avec le bassin trinational, notamment le bassin trinational, vous avez noté, c'est ce bassin qui touche une ville d'Alsace qui s'appelle Uningue et qui fait la liaison entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Voilà. Donc comme quoi, finalement, il y a un immobilier en dehors des limites du périphérique parisien. C'est une très bonne chose. Pour en parler, nous avons ceux qui font le marché au quotidien, inscrits d'ailleurs plutôt bien d'ailleurs, avec un très beau maillage territorial. Sévan Torossian est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, merci pour cette invitation.
Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu.
Tout à fait.
On s'était vu il y a 3-4 ans. On était encore un peu jeunes à l'époque.
Et oui, insouciance.
On a un peu progressé depuis. Associé, directeur, études et recherche chez Arthur Lloyd.
Tout à fait.
Voilà, c'est l'intelligence réunis dans la même personne pour Arthur Lloyd. En tout cas, voilà, on va essayer de parler de tout cela avec un avocat connu et reconnu dans le métier, spécialiste du droit immobilier. Il est avec nous à distance. Il a le Covid, mais il a quand même tenu absolument à participer à cette émission. On espère qu'il va bien. En tout cas, on est ravis de l'avoir. Il est en ligne. C'est Cyril Gonny-Goubert. Bonjour.
Bonjour à tous. Je vais très bien.
On vous envoie plein de bonnes ondes. Alors, vous êtes avocat à la Cour, vous êtes associé chez Watson, Farley and Williams, LLP, c'est bien ça, comme ça ? C'est comme ça qu'on le dit ?
C'est exactement ça.
Voilà, Watson, Farley and Williams, LLP. Moi, je dis que ça claque hein, comme ça nom claque. D'avocat. Voilà,
c'est comme titre d'avocat. Ça fait chic.
Ouais. Alors, juste une question, Cyril. Vous êtes installé à Paris, mais vous avez des bureaux un peu partout. Vous avez des correspondants. Vous êtes dans quel...
Oui, on est dans 12 pays dans le monde.
12 pays.
Voilà. Et en immobilier, dans quasiment tous.
OK. Donc, inutile de dire que si on veut s'adresser à vous, qu'on a besoin d'un avocat spécialisé, qu'on soit une foncière, un opérateur institutionnel, un OPC, une SCPI, il faut s'adresser à vous.
Exactement.
Voilà. Et d'ailleurs, je demanderai à nos amis de la régie de mettre... Il y a un site internet, hein, je suppose, du cabinet.
Oui, bien sûr.
Eh bien, on le mettra sur le podcast, comme ça on n'aura qu'à cliquer pour aller directement sur l'éventail des prestations que vous proposez dans ce cabinet d'avocats. Alors, on va prendre justement toutes les questions, puisque vous, Sévan, vous allez répondre à des questions très précises sur le marché lyonnais, questions qui ont été préalablement préparées, nuit et jour, avec beaucoup de travail, par Audrey. Voilà, c'est vous, hein, Audrey, qui avait tout préparé. Moi, je lis mes notes, voilà, sous la présidence d'Audrey. Et vous, Cyril, vous répondrez donc aux questions sur les motivations des clients investisseurs de bureaux à étudier le territoire lyonnais et sur l'avenir, notamment. Ça, c'est un vrai sujet du bail 369, dont certains pensent que c'est un frein majeur à la création d'entreprises et que effectivement, il est très nécessaire peut-être de le revoir la flexibilité de ce type de baux. Sachant que le vrai sujet est un sujet global, puisque les baux de bureau qui s'inscrivent sur des temps longs servent d'indicateurs financiers pour la levée de fonds et l'investissement dans l'immobilier. Donc il y a presque une schizophrénie ou des contraintes opposées qui font qu'à un moment donné, quand on est sur ce type d'allocation d'actifs, effectivement, comment coordonner ? Mais on a le même sujet pour l'immobilier résidentiel, pour l'immobilier géré et l'immobilier commercial, hein, bien évidemment. Les effets de levier se font parce qu'on a des temps longs et donc on a des bails longs qui permettent de financer. Donc comment répondre à la demande de l'activité de la création d'entreprise en même temps et adapter un outil juridique sûr pour ceux qui font le territoire ? Parce qu'il faut des investisseurs, hein, dans le bureau, ça c'est hyper important. Il y va de l'attractivité du territoire. Alors, comme c'est l'usage dans un premier temps, eh bien écoutez, nous attendons avec impatience l'édito d'Audrey Jourdain.
Le MAG au carré, l'édito d'Audrey.
Globalement, le marché lyonnais de l'investissement en immobilier d'entreprise a souffert en 2021. Seulement 1,2 milliard d'euros ont été injectés sur le marché. C'est une chute de 35% sur un an, de 50% par rapport à 2019 et de 10% par rapport à la moyenne décennale. Mais la bonne nouvelle est que le coupable n'est pas le désintérêt des investisseurs pour le territoire lyonnais, mais le manque d'offres. Et poursuivons avec une autre bonne nouvelle, les bureaux, la classe d'actifs phare du marché, qui concentre quand même 70% du volume investi, a montré des signaux positifs pour 2022. Le premier, les bureaux ont concentré un volume investi en 2021 de près de 780 millions d'euros. Il s'agit d'un niveau équivalent à celui de la moyenne décennale. Deuxième point positif, la demande placée a enregistré un très fort rebond en 2021 avec une hausse de 30% par rapport à 2020. Et terminons sur deux autres points clés à retenir. Le taux de rendement prime observé au sein du quartier Lapardieu s'est élevé à 3,4%. Et le loyer prime à 340 euros par mètre carré par an.
Merci Audrey. Eh bien écoutez, il est le temps de maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec ces chiffres qui sont quand même assez éloquents pour poser les premières questions à notre invité, notre première invitée. Je crois qu'on n'a pas de jingle hein, pour la première invitée, mais si on me dit que oui, eh bien c'est tout de suite après ça. On va avoir Sébane Tarossian qui va répondre aux questions précises sur le marché lyonnais.
Les invités du carré.
Les invités du carré sont avec nous. Première question à vous, Sébane Tarossian, associé chez Arthur Lloyd. Vous êtes allé aux études et à la recherche. La métropole de Lyon, avec la configuration donc des régions nouvelles, hein, c'est-à-dire qu'on est passé de 26 régions à 13 régions, a fait de Lyon une région inscrit dans une région que préside aujourd'hui Laurent Wauquiez, qui est très puissante, qui est devenue très puissante et qui est vraiment à des carrefours géostratégiques. Pourquoi les bureaux lyonnais attirent-ils fortement les acquéreurs en ce moment ? Et surtout, pourquoi ? Quand on sait que le bureau bashing auquel on a assisté ces dernières années, mais même avant le Covid, hein, sur certaines régions, on n'aurait pas forcément imaginé que ce soit toujours si attractif. Même en dehors d'ailleurs du quartier prime de la Pardieu, on voit qu'il y a une très forte dynamique métropolitaine sur la métropole de Lyon. On vous écoute.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Lyon est un marché très attractif à l'investissement. C'est le premier marché des régions. Il faut peut-être le rappeler, et Audrey vient tout juste de le rappeler, effectivement. Une baisse des volumes investis, hein, quelques chiffres pour compléter ce que vient de dire Audrey, une baisse des volumes investis peut-être en 2021, mais un segment du marché des bureaux de l'investissement qui a moins baissé que le reste, hein, il faut le souligner, un petit peu moins d'un milliard d'euros injectés quand même sur les bureaux, donc on reste quand même sur des volumes quand même très dynamiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que Lyon, si vous voulez, c'est, je pense, l'archétype de la métropole qui a réussi. Des facteurs sociaux, économiques qui sont installés depuis quand même plus de 20 ans. Une attractivité qui s'est construite au fil du temps, avec évidemment un bassin d'emploi très large, des infrastructures qui se sont développées.
Une transfiguration des voies d'accès, de les lignes à grande vitesse qui étaient déjà incluses là-dessus, et surtout effectivement une montée en gamme avec des nouveaux, une démographie qui est très positive et qui attire le secteur. Vous avez cherché à savoir justement ce qui attire le secteur ?
Alors, l'aire urbaine de Lyon, c'est 20 000 habitants supplémentaires chaque année.
C'est énorme.
Voilà, c'est énorme.
C'est énorme.
Donc ça veut dire quoi ?
Après Toulouse. Juste avant Toulouse.
Voilà, et donc ça veut dire que, effectivement, on a face à nous un territoire très attractif. Déjà parce qu'il y a une dynamique locale, mais aussi un territoire qui attire.
C'est quoi ? Il fait bon, on est à côté de la montagne.
C'est un parfait équilibre entre puissance économique, rayonnement, bassin d'emploi, proximité, effectivement, des montagnes.
Des valeurs locatives pas trop chères.
Une accessibilité.
Un immobilier accessible.
Tout à fait. Et on a aussi un marché, en fait, un marché locatif qui a changé de dimension, quand même, depuis 20 ans. Et c'est de nature à rassurer les investisseurs. C'est-à-dire que le marché a gagné en maturité, il a gagné en profondeur. Et ce qui plaît notamment aux investisseurs, c'est la complémentarité des sites d'accueil pour les entreprises, qui fait que, si vous voulez, cette complémentarité, elle assure un niveau de profondeur au marché lyonnais. Donc, cette complémentarité, elle permet d'accueillir à la fois des PME, des grands corporates. Et donc, on a des gabarits d'immeubles de toute taille pour répondre à la demande des investisseurs, qui est très diverse.
Seven, ce qui les attire, parce qu'on a vu le max des loyers prime, Audrey, 340 euros du mètre carré.
Absolument.
C'est juste sans appel, parce qu'à 340 euros du mètre carré, je suis à Aubervilliers, là. Hein, je suis entre Aubervilliers et Pantin. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis qu'à 340 euros du mètre carré, je suis dans le cœur de la Part-Dieu.
Bien sûr. Alors,
et je suis à 2 heures de Paris.
C'est ça.
Je suis à côté de la montagne. Je suis à 2h30 de la mer.
Bien sûr.
L'immobilier est bon. Les valeurs locatives sont relativement responsables, parce que dans ce quartier, on est à peu près à 14-16 euros du mètre carré en location résidentielle. Mmh. Donc, si je veux attirer des familles, etc., franchement, je déménage le siège.
Hein. Bien sûr. Et alors, vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'on a des loyers qui sont compétitifs.
Ça aide.
Ça aide, mais qui, encore une fois, si on se place du point de vue de l'investisseur, ils sont compétitifs aujourd'hui, mais en fait, il y a une croissance régulière ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on parle des loyers à 340 aujourd'hui, qui restent très compétitifs par rapport à Paris. Mais il faut se rappeler qu'il y a quand même 20 ans, on était autour de 200-220 euros.
Donc, dans le cœur de la Part-Dieu, il y a 20 ans pile, on était à 180 euros.
Voilà. Exactement. Et donc là, on parle de loyer prime, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la plupart des sites d'implantation ont un loyer autour de 220 euros. Vous êtes gérant.
Donc ça veut dire que vous pensez, vous, que le marché lyonnais a encore de belles années de développement financier au mètre carré
En tout cas, il y a des facteurs socio-économiques, socio-démographiques, qui sont installés et qui portent cette croissance de long terme, en fait. Donc c'est une croissance qui est durable.
Est-ce que cette croissance, sans faire de polémique, elle est le pendant, finalement, d'une réponse auquel Paris ne répondait exclusivement avec 55 millions de mètres carrés. Est-ce que, finalement, il y a une alternative? On le voit bien dans les sièges, hein, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la mode du style « j'ai besoin d'un siège parisien ». Ça, c'est terminé.
Alors, les deux sont possibles. C'est-à-dire que il y a toujours des entreprises qui auront besoin d'une antenne à Paris,
toujours,
de représentation,
oui.
Effectivement.
Oui.
Hein,
oui. Mais plus dans les mêmes proportions.
Voilà, peut-être plus dans les mêmes proportions, mais surtout, Lyon, ce qui est intéressant, c'est que, certes, c'est un territoire qui attire, mais c'est un territoire qui a su faire grandir les acteurs présents. Voilà.
Ça, c'est
pourquoi
important.
Parce qu'il y a le capital humain qui est présent. Les investissements qui ont été réalisés pour accueillir la population, la former, avoir des gens talentueux, diplômés, ça permet en fait d'avoir des forces vives en fait pour les entreprises locales.
Alors, on a dit que c'était bon. Maintenant, on va dire ce qui ne va pas.
Hein ?
C'est quoi les faiblesses de Lyon pour un investisseur de bureau ?
Je vous avouerai que j'ai dû me creuser la tête parce que, en fait, j'en vois assez peu des faiblesses. Mais il y en a peut-être quelques-unes. Je pense qu'Audrey l'a souligné tout à l'heure. La plus grande faiblesse en fait d'un marché comme Lyon, c'est en fait le manque de produits pour les investisseurs.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
qu'il y a une demande qui est importante pour les investisseurs. Il y a une concurrence, et là, c'est mes collègues de Brice Robert, Arthur Lloyd, mes collègues à l'investissement qui le disent. Mm-hmm. Il y a une très forte concurrence entre les investisseurs dès qu'il y a un produit qui est mis sur le marché. Et notamment, il y a peut-être une faiblesse sur les segments de plus de 50 millions. C'est traditionnel, en fait, dans les métropoles régionales. Au-dessus de 50 millions, il y a assez peu de dossiers. Et donc il y a une très, très forte concurrence, il y en a aussi en dessous. Mais voilà, il faut avoir en tête que dans un territoire comme Lyon, 90% des deals se signent sur des opérations en dessous de 50 millions. Donc il y a une très forte profondeur sur ces segments-là. Au-dessus de 50 millions, il y a des opérations, on en a eu aussi quelques-unes cette année.
Est-ce que vous avez circonscrit un peu le territoire ? C'est quoi ? C'est de la Part-Dieu à 80% ?
Voilà, c'est-à-dire que sur les plus de 50 millions, on est en intramuros sur des sites établis.
Donc c'est quoi la Part-Dieu ? C'est
la Part-Dieu,
QCA Lyonnais, quoi ?
Voilà, la Part-Dieu, QCA Lyonnais, des secteurs d'affaires alternatifs comme maintenant Gerland, comme Vaise, comme aussi le Carré de Soie, effectivement. Donc des sites alternatifs qui sont de nature à rassurer les investisseurs, parce qu'on a souvent affaire à de grands corporates, de grands comptes.
Vous savez combien on achetait à l'époque à Vaise ?
Il y a
25 ans.
En taux ?
En prix au mètre carré à l'achat.
Ah, alors je ne l'ai pas en tête.
Ouais, j'achetais 800 euros du mètre.
Ah, voilà. Donc
800 euros du mètre. Et aujourd'hui, on doit se situer entre ça dépend des zones, entre 4002 et jusqu'à 7000 euros du mètre carré, ce qui est incroyable, parce que Vaise, c'était le quartier le plus mal famé de Lyon. Il y a un autre quartier qui est émergent, que vous avez certainement aussi dans votre pipe, c'est le quartier de la gare de Perrache.
Tout à fait.
Qui, effectivement, avec la transformation de la prison Saint-Joseph, qui avait précipité effectivement le quartier dans un univers qui était un peu pas terrible, la reconversion du site de la prison Saint-Joseph a complètement transfiguré l'élément. Et ce qui est intéressant aussi, vous avez dit, c'est que les infrastructures, logements, résidentiels et mobilité ont été très bien pensées sur la région de la métropole. Facteur d'attractivité.
Et alors, c'est vraiment quelque chose moi, que je trouve assez unique à Lyon. C'est cette capacité qu'ont eu les collectivités, la métropole à l'époque, c'était la communauté urbaine, de réussir à coupler développement urbain de secteurs, de nouveaux quartiers urbains, avec justement, vous venez de le souligner, les transports en commun. Cette capacité à anticiper, justement.
Alors justement, effectivement, on le voit, hein, parce que moi j'ai quitté Lyon il y a 34 ans, donc j'ai vu cette ville se transformer. Les investisseurs qui animent le marché, c'est quoi? Des étrangers, des investisseurs régionaux, privés, institutionnels?
Très forte diversité, très grande diversité.
Est-ce qu'on a une dominante? Est-ce que c'est plutôt
alors,
des fonds
dominante domestique, hein, quand même des investisseurs domestiques.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même.
D'accord.
Quand même. Majoritaire.
Quand vous dites domestique, des gens du cru?
Alors, quand je dis domestique, c'est nationaux, en fait, c'est français.
Nationaux,
voilà,
d'accord.
Domestique, okay. Investisseurs.
C'est quoi? Des véhicules
nationaux. Alors, ça dépend des volumes. C'est-à-dire que quand on va être sur des volumes à plus de 50 millions, on va plutôt avoir des fonds ou des SCPI. Sur les segments de moins de 50 millions, ça va être très exclusivement des privés, family office, effectivement des club deals, notamment sur les opérations à moins de 15 millions. Il y a beaucoup d'opérations, une forte concurrence. Et il y a quand même des étrangers, on en voit.
Combien?
Notamment des investisseurs allemands.
On a des pourcentages ou pas?
Alors, on a des pourcentages, on est en fonction des années, ça dépend, entre 2/3 et 3/4 sur un marché qui est animé par les investisseurs français.
Français,
voilà. Et le reste, en fait, par des investisseurs étrangers. Par exemple, vous avez des investisseurs comme Allianz qui ont été actifs en 2021. Vous avez chaque année quelques deals réalisés par AEW, Aviva, ce genre d'investisseurs.
Alors, on l'a dit, les utilisateurs de bureaux s'implantent de plus en plus à Lyon. On a parlé d'attractivité. Juste une question complémentaire. On a dit que c'était bon et que c'était une dynamique qui était engendrée depuis la transformation de la métropole. Est-ce que depuis la crise sanitaire, est-ce que la crise sanitaire a accéléré le processus ou pas?
Alors, la crise sanitaire, on sait quel impact ça a eu. Hein, c'est une forte baisse des volumes de transactions, on va pas se mentir. C'était en 2020. En 2021, Audrey l'a très justement rappelé, ça a fortement redémarré. Donc, on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant Covid sur les volumes de transactions de bureaux. Néanmoins, on sait différencier en fait deux typologies. C'est-à-dire, on sait que ce sont les grands comptes qui ont quand même plus de mal à redémarrer, à redéfinir finalement leurs besoins immobiliers, même s'il y a eu un redémarrage en 2021, mais pas de la même ampleur que les volumes qu'on a connus en 2019, par exemple. En revanche, les PME, qui animent le segment des transactions de 200, 500, moins de 1000 m², elles ont très peu levé le stylo, finalement. C'est-à-dire qu'elles ont continué à être actives et finalement, elles sont toujours présentes. Elles animent ce marché qui est très dynamique. Il faut vraiment le rappeler. Voilà. Donc, et je pense qu'il y a un aspect qui est important de souligner, c'est que ce redémarrage qu'on a enregistré des volumes de transactions avec un peu moins de 300 000 m² en 2021, sur ces 300 000 m², vous avez 79% de ce volume qui s'est concentré en intramuros. Donc, je pense qu'il faut vraiment.
En intramuros.
En intramuros.
Donc, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que Lyon a de beaux jours devant elle, la première couronne de Lyon.
Une recherche de centralité très forte des entreprises.
Mais bien sûr.
Parce qu'on est à la recherche, en fait, de secteurs mixtes où on peut avoir à la fois une vie au bureau, mais aussi
parce qu'il y avait pas
une vie après le bureau.
Il n'y avait pas de banlieue, en fait, de banlieue réelle à Lyon, puisqu'il y a un élargissement des arrondissements de Lyon. Par exemple, le 9e arrondissement de Lyon est un arrondissement qui s'est développé de façon incroyable et qui était l'arrondissement le pire de Lyon en termes de classe sociale, de territoire à l'abandon. J'en sais quelque chose parce que j'y suis né et j'y ai grandi. Donc c'était vraiment pourri. Voilà, on avait le choix entre le gris et le noir. Maintenant, il y a une pensée des espaces verts, il y a un rasage complet des tours de grande hauteur en logement, hein, ce qui avait des, faut quand même rappeler qu'à l'époque, il y avait 600 000 rapatriés qui arrivaient sur le territoire. Et donc, ça a vraiment été transfiguré. Il y a aussi d'autres régions qui commencent à tirer leur épingle du jeu. Saint-Priest, par bien exemple, Limonest, sur l'autre axe, Dardilly, Écully, qui commencent à devenir. Alors, je vous dis, Dardilly, Écully, c'est un peu le Neuilly-sur-Seine de la région lyonnaise. Voilà, vous voulez faire un siège un peu tech, un peu sympa. Le gros avantage d'Écully comme de Dardilly, c'est qu'on est sur l'axe Paris avec l'autoroute et on est à 25 minutes de la gare.
Voilà, le secteur de la Téclide là, qui est vraiment très...
Téclide qui est aujourd'hui... Et surtout, il y avait l'école centrale de Dardilly qui était réputée, qui a amené aussi à l'Institut Paul Bocuse. Et voilà, il y a une dynamique qui est sans précédent et qui donne aujourd'hui à Lyon une certaine couleur. Merci Sébane Torossian pour cette question et je vais m'adresser à vous Cyril Gogny-Goubert. Donc, vos clients, vous avez beaucoup de clients investisseurs, est-ce que, on va être très clair avec vous, est-ce qu'ils sont attirés par le territoire lyonnais ?
Oui, ils sont très très attirés par le territoire lyonnais, on fait beaucoup d'opérations à Lyon. Les raisons sont diverses, mais je pense que la principale, c'est qu'en fait, c'est un marché qui est très bien adapté aux investisseurs institutionnels. Les acteurs locaux, notamment les promoteurs, les juristes, les notaires, les brokers, sont très organisés là-bas. Et c'est une des rares villes en France, en dehors de Paris, dans laquelle on peut avoir une vraie qualité contractuelle, documentaire et de réalisation qui plaît aux investisseurs institutionnels. Et c'est vrai que c'est une qualité qu'on a du mal à retrouver dans d'autres villes de France où le marché est encore pas assez mature.
Alors, quand vous dites les investisseurs, j'aimerais qu'on précise justement le profil des investisseurs. C'est des sociétés civiles, ce sont des CPI, des OPCI, des foncières, c'est des family office. Vous, parmi vos clients, vous les classeriez comment dans l'ordre ?
Les SCPI sont très loin devant.
Ah oui.
Aujourd'hui, les SCPI. Alors, en effet, c'est plutôt sur du mid-market. Hein, donc, on va être sur des opérations entre 20 et 50. Et là, il y a beaucoup de volume en réalité. Alors, c'est vrai que ça représente peu sur le total, puisque il faut beaucoup de petites opérations pour équivaloir à une grande. Mais ce sont principalement des SCPI aujourd'hui et des fonds français.
Est-ce que le taux de rendement qui est de 3,4%, c'est bien ça, taux de rendement moyen, reste un taux de rendement attractif pour les CPI qui sont vos clients ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, ils recherchent du rendement, certes, ils recherchent toujours le meilleur rendement possible, mais si on est sur du 3,4, du 3,5, on sera toujours sur un rendement qui sera bien supérieur à ce qu'ils pourraient trouver à Paris, tout en ayant des produits disponibles et des produits de qualité.
D'accord. Alors justement, vous êtes avocat et vous êtes sollicité sur plusieurs sujets, mais sujets d'investissement, sujets aussi parfois peut-être même sur des contentieux, mais surtout sur des réflexions, notamment la rédaction des baux, qui est un sujet majeur dont on ne soupçonne pas l'importance en termes d'effets structurels. On parle beaucoup du bail 369. Bon, je ne vais pas faire la tarte à la crème, mais on en parle tout le temps. Moi, déjà, il y a 15 ans, on commençait déjà à évoquer le frein que ça pouvait provoquer dans l'émergence et la création d'entreprises. D'ailleurs, ce bail a permis l'émergence de nouveaux mots usages. Hein, le coworking, c'est lié aussi à une flexibilité liée au mode contractuel. Cette relation contractuelle avec les opérateurs, elle est majeure. Est-ce que, clairement, vous pensez que ce bail, en son modèle actuel, le bail 369, qui permet aussi, il faut le rappeler, de faire des effets de levier pour le financement moyen terme pour des foncières, puisque c'est comme ça qu'on lève les fonds aussi dans certaines opérations, ça sécurise. Est-ce que vous pensez qu'il existera encore dans les 5 prochaines années ? Et si oui, pourquoi il continuera à exister ?
Alors, c'est vrai que c'est un système qui peut paraître un petit peu dépassé aujourd'hui, si on va fêter les 70 ans du régime. Donc c'est très long. Néanmoins, moi mon avis c'est que le 369 a de très très belles années devant lui parce que aujourd'hui le système d'investissement tel qu'il est prévu est calibré en fonction de ce type de bail. Alors vous l'avez rappelé, pour des raisons de bancabilité principalement, aujourd'hui on a besoin d'une stabilité long terme et donc le risque de vacances est un risque qui est assez mal supporté par les investisseurs et leurs financeurs. Et aujourd'hui, le seul moyen qu'on ait, quand on est côté investisseur, d'assurer une pérennité d'un investissement et d'assurer un certain flux, locatif long terme, c'est d'avoir des baux 369, voire des baux avec des durées fermes plus longues. Et aujourd'hui, c'est non seulement nécessaire à l'achat, mais c'est aussi indispensable à la revente. C'est-à-dire que quand vous vendez un immeuble, il est indispensable d'avoir, d'assurer cette continuation de la pérennité d'occupation. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, seul le bail commercial est capable d'assurer cette pérennité.
Alors, il y a un besoin à condition d'avoir des preneurs, quand même.
C'est évident.
Oui. Non, parce que le problème, Cyril, c'est que sur la demande placée, on voit bien les effets qu'ont le placement au mètre carré des immeubles de bureaux. Je prends le cas de la Défense, mais même si ce n'est pas forcément le cas le plus caractéristique, parce que je crois qu'on n'a jamais atteint une vacance locative aussi élevée, elle est de 12% ou 13% sur la Défense. On parle quand même de la Défense, hein, le premier centre européen du bureau. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je l'ai vu sur certains deals. Avant, on avait des opérateurs qui voulaient prendre des sièges sociaux ou des volumes en mètres carrés au 10e étage, 8e étage. Aujourd'hui, ils prennent au rez-de-chaussée, ils prennent au premier et ils prennent deux fois moins de surface. En fait, on a presque l'impression que les volumes en tant que tels, sur des durées fermes, sont un peu moins attractifs pour certaines grandes entreprises. Mais ça, c'est l'impression qu'on en a. Est-ce que vous confirmez cet état ? Ou est-ce que vous dites non, au contraire, les grands groupes sont toujours aussi preneurs de surfaces importantes et sont prêts, attention, à s'engager sur des baux aussi longs ?
Non, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a la demande de grandes surfaces aujourd'hui est en baisse. Et aujourd'hui, ce qu'on voit côté utilisateur, c'est que, la demande est sur des locaux de très belle qualité, avec une attractivité, la faculté de d'offrir une vie à ses salariés qui soit plus agréable, des rooftops, des services.
Eh oui, bah oui.
Mais en revanche, c'est plus la surface qui compte. Donc, on n'a plus besoin d'entasser des dizaines de salariés dans des bureaux, parce que aujourd'hui, avec le télétravail, on peut se permettre beaucoup plus de flexibilité à l'usage. Mmh. Et par conséquent, il est clair que sur les très grandes surfaces aujourd'hui mal placées, les investisseurs ont du mal à les remplir.
Oui, mais évidemment, bien sûr. Alors, question, justement, j'avais un chiffre intéressant, il n'est pas prévu dans le déroulé, mais à mon avis, c'est intéressant. Si, avec un jour télétravaillé, l'IEIF a publié un rapport, c'est 27% d'économie sur la surface. Ce qui est quand même considérable. Mais vous avez dit une chose importante, Cyril, c'est qu'effectivement, la notion de service autour, la notion d'utilisation de l'espace et non plus du bureau en tant que tel par rapport aux personnes, a beaucoup changé dans la façon d'interpréter ou d'aménager les espaces. À votre avis, on sait qu'il y a eu des aménagements. Il y a des aménagements, d'ailleurs, au bail 369. Et d'ailleurs, entre nous, vos clients comme les autres... sont pas idiots, hein. Les investisseurs, ils proposent des aménagements. Moi, j'ai vu des trucs incroyables. 3 mois de franchise pendant 6 ans, ce qui fait l'équivalent de quasiment 2 années de gratuité. Enfin, j'ai vu des trucs surréalistes se poser, parce qu'à la limite, vaut mieux prendre peu de beaucoup que beaucoup de rien du tout, hein. Donc, on voit bien qu'il y a des investisseurs fébriles sur certains sujets. C'est quoi les alternatives par rapport au bail 369 ? Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous dites... J'ai entendu ce que vous disiez, vous dites, voilà, le régime 369 a un bel avenir devant lui, mais quand même, il faut des aménagements et autres. C'est quoi les alternatives possibles ? Vous en avez en tête ?
Bah, c'est assez drôle parce qu'en fait, la période de franchise, c'est juste un moyen de préserver justement ce
régime
369. Parce que oui. En échange de la franchise, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir de la durée ferme.
C'est vrai.
Et par conséquent, on va au contraire pousser le modèle du 369. Et aujourd'hui, les alternatives, en réalité, si on veut de la flexibilité, il va y avoir un coût à payer. Et aujourd'hui, ce coût, il est supporté par les sociétés qui font du coworking. Alors, il y a certains investisseurs qui se mettent à faire du coworking, mais la grande majorité des investisseurs institutionnels aujourd'hui ne sont pas vraiment armés pour ça. Ils ont du mal à supporter la flexibilité, les contraintes en termes d'asset management, et le modèle n'est pas fait pour. Donc aujourd'hui, ce risque il va être porté par des locataires qui sont des sociétés de coworking, qui eux, aujourd'hui, prennent des engagements fermes et qui derrière vont certes offrir une flexibilité aux utilisateurs finaux, mais avec une marge. Et donc, il y a cette alternative, mais il y a un coût. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on cherche de la flexibilité, en réalité, il y a un coût. Une autre alternative au coworking aujourd'hui qu'on voit de plus en plus est pour des utilisations initiales des baux de courte durée. Donc, on a de plus en plus de baux dérogatoires, y compris sur des surfaces de bureaux qui, il y a encore quelques années, auraient été prises en.
Vous parlez des baux précaires.
Derrière, ça. Oui, ça laisse un certain temps à l'utilisateur pour voir si il se plaît dans les lieux, si il va y rester, s'il s'y voit plus longtemps. Et derrière, on passe en bail commercial traditionnel, si c'est le cas.
Alors, vous avez raison de le souligner à tous ceux qui nous écoutent. La structure d'exploitation de ces espaces, est ce qu'on appelle les structures à coût fixe, comme dans l'hôtellerie. Mmh. Si vous n'avez pas un coefficient de remplissage, vous n'êtes pas rentable. Donc, on prend par exemple le leader mondial des espaces partagés, qui est le groupe IWG, que vous devez certainement connaître. C'est Regus, Spaces, où nous trouvons d'ailleurs, Stop and Work, et avec justement des strates. Parce qu'une chose qu'on n'a pas évoquée, mais on l'évoquera certainement dans les prochaines émissions, c'est les tiers-lieux par rapport au télétravail. Effectivement, ce sont des belles alternatives, mais il y en a d'autres, c'est la mixité d'usage. La mixité d'usage entre logement et bureau. On voit que le groupe Accor, par exemple, travaille beaucoup sur ce type de modèle. Effectivement, il y a encore de belles choses. Une dernière question, Cyril. Les problématiques juridiques actuelles des investisseurs de bureaux, si on devait les identifier, ça serait lesquelles aujourd'hui dans un univers post, entre guillemets, pandémique ?
Alors ça, bizarrement, pas de rapport avec la pandémie, mais aujourd'hui, c'est la décarbonation de l'immobilier.
Oui, bien sûr.
Et le décret tertiaire. Et c'est un sujet qui va prendre les investisseurs de cours, parce qu'aujourd'hui ils y sont assez peu préparés en réalité. Et le sujet a été un peu passé au second plan, notamment pour des raisons de pandémie. Mais c'est un sujet qui va revenir et qui va entraîner une certaine tension en termes de CAPEX. Et ça va se faire un tout petit peu dans la panique.
J'adore.
On le sent quand même un peu mieux.
Non, mais j'adore. Non, mais mais vous avez raison, Cyril. Il faut le dire à vos clients. Effectivement, ils l'ont. Vous savez quoi ?
On n'arrête pas de leur dire.
Non, mais franchement. On va tous dire. De toute façon, on est entre nous. On peut tous dire. Ils l'ont pas vu arriver, ce décret tertiaire. Pas la mesure de ce qu'il va provoquer. C'est un peu comme le nouveau DPE, vous savez, pour le résidentiel. Il y a un DPE collectif, il y a un diagnostic technique global à l'échelle de la copropriété. Personne ne l'a vu venir. Sauf que, je vous donne juste un chiffre comme ça, voilà. En 2028, c'est 4 800 000 logements qui seront retirés du marché. Inlouable. Et vous le savez, dans votre métier, on ne pourra plus louer vos bureaux si les travaux de réno ne sont pas faits. Et donc l'application du décret tertiaire va bien plus loin, effectivement, qu'une reconfiguration de l'ensemble des actifs. Je prends un exemple sur justement les problèmes qu'on a rencontrés avec l'amiante, par exemple, dans les bureaux des années 70. Ça a mis le marché vraiment en grande fébrilité. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter, vous l'avez dit, Cyril, effectivement, c'est que dans le décret tertiaire, vous avez ce qu'on appelle une espèce de DPE préalable. Donc un diagnostic et un audit préalable qui est quasiment une obligation à faire. C'est rémunéré que 2 euros du mètre carré. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser la question de savoir comment on attribue les moyens de la transformation, parce que je pense que Cyril, vous êtes d'accord avec moi, les preneurs prendront, avec des coûts énergétiques ultra maîtrisés, des matériaux qui sont biosourcés et avec une empreinte carbone, sinon neutre, au moins de toute façon complètement maîtrisée, on est d'accord là-dessus.
Ah oui, non, mais clairement. Mais ça se voit sur. En fait, il y a une vraie dichotomie aujourd'hui entre ce qui est de belle qualité sur le plan environnemental et ce qui l'est pas.
Eh ouais, c'est clair.
Et là où ça va faire très mal, c'est pas nécessairement sur les beaux produits, les beaux immeubles avec de beaux preneurs. C'est sur le marché secondaire où il y a pas vraiment d'anticipation des CAPEX. Les propriétaires de ces immeubles vont se retrouver dans une situation où ils vont avoir beaucoup de CAPEX pour satisfaire en effet des utilisateurs qui sont de plus en plus désireux d'avoir des coûts maîtrisés et des bureaux qui sont peu consommateurs. Et c'est sur ces immeubles-là qu'il risque d'y avoir un petit problème à un moment donné.
Eh ben moi, je vais vous dire, dans un monde immobilier de désartificialisation des sols, les immeubles dont vous parlez, eh ben, c'est du résidentiel à terme. C'est-à-dire que ça sera, on va déconstruire, les démonter, les remonter et en faire du logement résidentiel, parce qu'effectivement, on avait fait juste une estimation sur la vacance parisienne, Île-de-France, on était à peu près 5 millions de vacances, 5 millions de mètres carrés, et on a estimé qu'il y avait 2 800 000 mètres carrés obsolètes. Donc, potentiel pour le logement. Il y a de très belles boîtes qui transforment des bureaux en logement, comme Novaxia, par exemple, ou d'autres. Je pense que c'est à suivre. Merci, j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Merci à vous, Sévan Torossian, associé, directeur études et recherches chez Arthur Lloyd.
Merci.
Merci, Cyril Gonigoubert, partenaire, avocat à la cour chez Watson Farley and Williams LLP. Il faudra venir chez nous la prochaine fois, hein, Cyril.
Oui, mais la prochaine fois, je serai guéri. Je viens
voilà. Voilà, c'est toujours... Alors, c'est intéressant parce que pour une fois qu'on entend un avocat qui ne parle pas un langage d'avocat et que tout le monde comprend, je trouve ça top. Voilà, merci beaucoup. Merci, Audrey, rédactrice en chef de La Lettre du Mètre Carré. On se retrouve le mois prochain pour une émission. Cette émission, elle est diffusée le 13 avril à 16h. Voilà. Vous verrez les postes. C'est hyper important, hyper intéressant, parce que sans l'immobilier d'entreprise, on ne peut pas se loger. Sans logement, on ne peut pas avoir d'immobilier d'entreprise. Comme quoi, l'interdépendance de notre marché, c'est quelque chose qui s'impose comme étant une réalité. Merci à toutes et
merci
à tous.
Sylvain. Merci Sylvain.
Et on se retrouve ensemble le mois prochain pour un nouveau Mag au carré.
Le Mag au carré, en partenariat avec La Lettre Mètre Carré.